Merci pour la présentation. Je voudrais rajouter une petite chose, parce qu'effectivement, ça peut paraître incongru que le recteur adjoint de l'Université Galatasaray intervienne ici. Alors, simplement, deux mots sur l'Université Galatasaray, qui est un projet assez original. L'Université Galatasaray est une université turque, publique, francophone, cofondée par un accord bilatéral par la France et la Turquie en 1992. Donc elle se trouve à Istanbul, et par statut, le recteur, qui est, bon, selon la dénomination turque, le président de l'université, le recteur est turc, et le recteur adjoint est français, et donc j'occupe effectivement actuellement les fonctions de recteur adjoint dans cette université de prestige, où j'aurai le plaisir de vous accueillir si vous avez envie de faire un saut à Istanbul. Alors effectivement, j'ai été, qui parlait ce matin, effectivement, c'est Thierry Rocher qu'il était à moitié vieux. Moi, je me sens encore plus vieux, puisqu'effectivement, l'ouvrage « Le redoublement pour ou contre » paru chez ESF à 20 ans, enfin pratiquement 20 ans. Je voudrais en dire deux mots pour situer un peu le contexte. Effectivement, à l'époque, j'étais professeur à Lyon et à Lyon 2, et mon collègue Michel Desvelet m'avait suggéré d'écrire un ouvrage sur le redoublement. À l'époque où, en France, on n'avait rien, on n'a aucun ouvrage sur le redoublement. Effectivement, on avait la recherche de Claude Sebel et Jacqueline Vasseur. On avait l'ouvrage de Marcel Craet, effectivement, sur comment lutter contre l'échec scolaire, mais on n'avait pas d'ouvrage sur le redoublement. Il se trouve qu'à l'IREDU, j'étais à l'époque chercheur à l'IREDU également, on avait conduit notamment Marie Duru, Alain Minga et d'autres, un certain nombre de recherches qui touchait au redoublement, mais ne s'y consacrait pas particulièrement. Et on s'est dit, ben, ce serait peut-être intéressant, en partant notamment de ces recherches et d'autres travaux, de faire une synthèse. Et moi, j'avoue que, économiste de l'éducation, je n'avais absolument aucune antériorité en matière d'analyse du redoublement. Je me suis lancé dans cet ouvrage qui s'appelait donc « Le redoublement pour ou contre ». Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans la famille, en quelque sorte, des gens qui ont travaillé sur le redoublement. Puis ensuite, effectivement, ce rapport avec Thierry Troncin pour le Haut Conseil d'évaluation de l'école et la direction de la thèse de Thierry, dont il parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Donc, on m'a demandé, à l'occasion de cette conférence, de traiter cette question. Quel est le poids de l'origine socio-économique, de la nationalité et de la langue parlée dans le redoublement? Donc, je reprends la question telle qu'elle est. Je vais essayer de la traiter à partir d'une revue de littérature. Bien évidemment, petit point de précision au départ, quand on parle de nationalité, hein, c'est effectivement une façon raccourcie, hein, de parler de l'origine géographique, de l'origine nationale. Bien évidemment, les élèves, puisque ce sont les élèves auxquels on s'adresse, enfin que l'on considère ici, ce sont pour la plupart des élèves français, on verra, d'origine immigrée ou d'origine française. Ce que l'on doit dire, c'est qu'effectivement, ça a déjà été évoqué depuis ce matin, la pratique du redoublement a fortement baissé en France, mais bien qu'elle ait fortement baissé en France, elle continue à concerner de façon plus massive les enfants d'origine sociale modeste. Alors je vais déjà parler effectivement de l'origine sociale, et puis après j'aborderai la question de l'origine immigrée, non immigrée, qui est une question plus complexe. Et puis, je terminerai par quelques comparaisons internationales. Alors, si vous voulez, pour aller vite, en 2013, on avait pratiquement un quart des élèves encore qui étaient des élèves de troisième qui présentaient un retard scolaire, donc un quart des élèves, hein, alors que 20 ans auparavant, en 1993, ils étaient pratiquement à la moitié, hein, 46%. Je parle un peu à la louche. Mais, alors effectivement, une baisse, hein, du redoublement, indiscutablement, mais comme je le disais, les élèves d'origine sociale modeste sont plus concernés. Alors, tout à l'heure, effectivement, Christian Forestier disait les enseignants ne font pas redoubler leurs enfants. Effectivement, les chiffres que je présentais ici vont un peu dans cette lignée-là, même si, effectivement, n'en restons pas à ce raccourci, évidemment, la question est beaucoup plus complexe, mais on voit qu'à l'entrée en sixième, les fils d'ouvriers sont 17% à être en retard. Et je vais essentiellement, là aussi, je profite pour préciser que je vais parler du redoublement essentiellement au primaire et en collège. Je n'aborderai pas la question du redoublement au lycée, qui est d'une nature différente. Et effectivement, si l'on regarde en fin de troisième, vous voyez que 35% aujourd'hui des enfants de catégorie défavorisée sont en retard en fin de troisième, contre 10% des enfants de 4. Donc effectivement, bon, ce n'est pas une nouveauté, je pense, pour personne d'entre vous. Hein, effectivement, on a un poids marqué de l'origine sociale dans le redoublement. Alors, pour ce qui concerne maintenant plus spécifiquement la question de l'influence de l'origine ethnique, nationale, géographique. Donc, si on considère effectivement l'effet de l'origine immigrée, on va rentrer là dans une question un petit peu complexe du point de vue de la recherche. Je pense que l'étude qui fait vraiment référence en France en la matière, c'est une étude de 1996, c'est l'étude de Vallet et Caille, qui part du constat qu'effectivement, a priori, les enfants d'origine immigrée redoublent plus que les enfants d'origine française. Et effectivement, si on regarde les données de Vallet et Caille, 54% des élèves d'origine immigrée n'ont pas connu de redoublement en primaire contre 73% des élèves français. Donc effectivement, il y a un écart assez massif entre les enfants d'origine immigrée et les enfants d'origine française. Mais l'avantage du travail économétrique extrêmement fouillé de Vallet et Caille, c'est de montrer que cette différence se réduit, voire s'annule, lorsque l'on tient compte effectivement des caractéristiques individuelles des uns et des autres. Du fait qu'effectivement, les enfants, les élèves d'origine immigrée, ont une origine sociale plus modeste, sont issus d'une famille plus nombreuse, et donc ont avec eux toute une série de caractéristiques qui font qu'effectivement, ils redoublent plus, et ce sont ces caractéristiques qui sont plus importantes, en quelque sorte, que leur origine d'enfants immigrés. Cependant, alors, et donc cette étude a fait référence pendant des années, en travaillant justement pour cette conférence de consensus, je me suis aperçu que le débat n'était pas clos, loin de là, et c'est ce que je voudrais illustrer aujourd'hui, notamment à partir du travail de Brinbaum et Kiefer. Bon, Yael Brinbaum ayant aussi à cette époque-là travaillé à l'IREDU. Donc ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, leurs données confirment ce que Vallet et Caille montraient, c'est que 3 ans après l'entrée en sixième, les enfants d'origine immigrée sont plus fréquemment en retard que les enfants d'origine française. Et donc effectivement, on a 22% des enfants d'origine française qui sont redoublants, enfin qui ont redoublé, hein, qui ont du retard, effectivement, 3 ans après l'entrée en sixième, contre 42%, et là, effectivement, Brinbaum et Kiefer vont spécifier, vont préciser la catégorie immigrée, ils vont s'intéresser à des familles bien particulières, c'est pour essayer de véritablement forcer les résultats, en quelque sorte, s'intéresser aux familles dont les deux parents sont portugais ou les deux parents sont maghrébins, hein, pour essayer d'insister, effectivement, sur l'origine nationale. Donc 22% pour les enfants d'origine française, 42% pour les enfants dont les deux parents sont maghrébins ou portugais. Donc une différence assez sensible. Mais effectivement, lorsque l'on tient compte de l'origine sociale, là aussi, comme dans l'étude de Vallet et Caille, les différences vont se réduire, puisque 41% des enfants d'origine française ouvrière et employée, cette fois-ci, sont en retard. Donc vous voyez, on passe de 22% à 41%. On retrouve le poids de l'origine sociale que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est aussi le cas de 49% des enfants d'origine portugaise d'origine, enfin, ouvriers ou employés, et 50% des enfants d'origine maghrébine, ouvriers et employés. Donc là, ce que l'on voit à travers l'étude de Brinmon et Kiefer, c'est que effectivement, lorsque l'on tient compte de l'origine sociale, les différences se réduisent, parce qu'effectivement, les enfants français d'origine ouvrière vont beaucoup plus redoubler que la majorité des enfants, mais que malgré tout, il subsiste une différence et que l'on peut remarquer ici. Ce qui est important aussi, ça a été évoqué rapidement ce matin, c'est la différence entre garçons et filles. Et cette différence entre garçons et filles, elle existe effectivement chez les enfants d'origine française. 48% des garçons sont en retard, donc toujours pareil, hein, 3 ans après l'entrée en 6e contre 35% des filles, ça fait bon, 13% hein, de taux de retard. Mais ce retard, cet écart entre garçons et filles, est beaucoup plus marqué chez les enfants d'origine immigrée. Hein, vous voyez, la différence est de 26% chez les enfants d'origine portugaise. Donc effectivement, les garçons d'origine portugaise redoublent beaucoup plus que les filles d'origine portugaise comparées aux Français. Et c'est un petit peu moins marqué chez les enfants d'origine maghrébine, mais l'écart est quand même de 20%. Donc c'est quand même un écart entre sexes effectivement plus important que chez les enfants d'origine française. Alors pourquoi ces écarts qui subsistent ? On peut essayer, effectivement, je ne veux pas trop rentrer dans l'analyse, je voulais quand même plutôt rester au niveau factuel, mais ce que l'on peut dire, c'est ce que, notamment l'un des éléments que Yael Brinbaum traite dans sa thèse de 2002, c'est qu'effectivement, les mères d'origine immigrée ou immigrée elles-mêmes, se sentent souvent dépassées dès l'école primaire, parce qu'elles ont, effectivement, souvent, elles sont parfois ou souvent peu alphabétisées et donc peuvent avoir des difficultés à accompagner le travail scolaire de leurs enfants dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et cela, bien sûr, va s'accroître, s'accentuer au collège. Et alors, ce travail de Yael Brinbaum est confirmé par l'étude de Murat de 2010. Dans l'étude de Murat, qui est une étude assez riche, on va également étudier, faire passer en quelque sorte un test aux parents. Et donc on va étudier les compétences, on va rentrer dans l'analyse, les compétences des parents. Et à ce moment-là, ce dont Murat va s'apercevoir, c'est que l'effet, effectivement, origine immigrée va disparaître lorsque l'on va rentrer la variable compétence des parents en lecture, calcul, compréhension orale. Donc ça confirme effectivement le travail de Yael Brinbaum, c'est qu'effectivement il semblerait que cette difficulté enfin, des enfants, cette difficulté spécifique des enfants d'origine immigrée tiendrait en grande partie aux difficultés des parents à accompagner leur travail scolaire. Alors, malgré tout, une autre étude qui va nous donner un éclairage aussi intéressant et un petit peu différent, c'est le travail de Kay et Rosenwald, qui nous montre qu'une grande partie des choses sont données à l'entrée au cours préparatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'entrée au cours préparatoire, les enfants, selon leur origine sociale, ne viennent pas avec les mêmes cartes dans les mains. Et lorsque l'on fait passer des tests aux enfants à l'entrée en cours préparatoire, il y a au départ, effectivement, des écarts de compétences, disons, assez sensibles, selon l'origine sociale. Si on regarde là, effectivement, les items hein, que l'on demande aux enfants de résoudre, on voit qu'un enfant d'enseignant, et c'est pourquoi je relativisais mon constat précédent sur le redoublement des enfants d'enseignants, un enfant d'enseignant à l'entrée en CP réussit 7 items de plus qu'un enfant d'origine ouvrière. Donc ça, c'est au départ, en quelque sorte, hein, à l'entrée du système scolaire, en tout cas à l'entrée du CP. Et donc il semblerait qu'en partie, les enfants d'origine immigrée rentre effectivement à l'école primaire avec un niveau de compétence plus faible que les autres enfants, et ils auraient du mal à rattraper ce retard initial. Ceci étant, d'après l'étude de Kai Rosenwald, à niveau de compétence égal, il ne semblerait pas qu'effectivement les enfants d'immigrés, d'origine immigrée, redoublent plus ou aient une scolarité plus compliquée que les enfants d'origine française. Donc il faut évidemment avoir à l'esprit cette dimension compétence initiale à l'entrée donc au cours préparatoire. Autre dimension qu'il faut prendre en compte ici et qui concerne, alors qui prend justement une dimension particulière aujourd'hui, parce que lorsque j'ai écrit ça, c'était au mois de décembre, et un certain nombre d'événements qui se sont passés en France ces dernières semaines et qui jettent une lumière particulière là-dessus, c'est effectivement le rôle de l'environnement, de l'environnement socio-économique sur les attentes et la réussite des élèves. Et qu'effectivement, alors ça c'est l'étude de Baccaini et de ses collègues, qu'ils montrent que les élèves qui vivent dans un environnement marqué par une forte précarité économique accusent plus fréquemment du retard scolaire. On a d'autres travaux, effectivement, sur ce qu'on appelle les effets de pair, les effets de voisinage, fréquenter des jeunes qui sont en retard scolaire, fréquenter des jeunes qui ont des difficultés scolaires, c'est aussi un facteur pour les individus d'aggravation de leurs difficultés. Donc effectivement, il y a un effet de voisinage. Donc là-dessus, on peut imaginer aussi des effets de concentration scolaire qui pourraient avoir effectivement des effets négatifs sur la réussite des élèves. Dernier point que je voudrais aborder, c'est non pas véritablement une perspective sur le redoublement, mais une perspective sur le niveau de compétence. Et je voudrais rappeler ici quelques données qui ont quand même déjà passablement circulé dans la communauté au moment de la publication du dernier rapport PISA, et qui concernent plus spécialement la France. Ce qu'il faut déjà avoir à l'esprit, c'est que selon l'enquête PISA, et donc l'enquête de 2012 s'intéressait particulièrement aux compétences en mathématiques, c'est que les élèves faibles en mathématiques en France, ont vu leur poids s'accroître entre 2003 et 2012. Donc on a proportionnellement plus d'élèves faibles à 15 ans aujourd'hui qu'on en avait 10 ans auparavant. Donc on a déjà une interrogation particulière à porter sur les performances de notre système éducatif. Mais comme ça a été signalé ce matin dans un tableau de résultats PISA, c'est qu'effectivement, bon, l'un des problèmes que nous avons en France, c'est que justement, nous ne savons pas bien traiter les difficultés scolaires et que nos élèves faibles sont particulièrement faibles. C'est une interrogation majeure. Et le problème lié à cela, c'est que l'origine sociale joue un rôle dans la réussite scolaire beaucoup plus forte en France que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. L'origine sociale a un rôle plus négatif en France qu'elle ne l'a dans les autres pays de l'OCDE. Et donc, c'est, vous voyez, on a... Et lié à ça, effectivement, on a cette dégradation de la réussite, ce poids de l'origine sociale, et donc... Cette difficulté que nous avons à traiter les difficultés scolaires et donc à traiter de l'impact effectivement de l'origine sociale sur les difficultés. Pour terminer, si on reprend les données PISA par rapport à l'origine nationale, ethnique, géographique, l'on voit qu'effectivement dans PISA, les enfants d'origine immigrée ont de moins bons résultats que les enfants d'origine nationale. C'est vrai pour l'ensemble des pays PISA. Ce qui est vrai aussi, c'est que si on tient compte de l'origine sociale, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les données françaises, les écarts se réduisent. Si on considère les enfants d'origine ouvrière, les écarts se réduisent. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'ils se réduisent moins en France que dans les autres pays du programme PISA. Donc effectivement, on voit bien que les résultats du PISA 2012 confirment les résultats précédents. Nous avons du mal en France à traiter la difficulté scolaire et les facteurs liés à la difficulté scolaire, origine sociale ou origine ethnique. Même chose, et je terminerai là-dessus pour la langue parlée à la maison, puisque la question m'avait été posée pour cette conférence de consensus, et PISA cherche à y répondre. Selon l'enquête PISA, nous avons 6% des élèves qui ne parlent pas la langue d'enseignement, donc qui ne parlent pas français pour ce qui nous concerne, à la maison. Et le constat va être le même, c'est qu'effectivement, ces élèves-là ont en général, dans tous les pays de l'OCDE, quand on ne parle pas la langue d'enseignement à la maison, le niveau de performance à 15 ans est plus faible. Quand on prend en compte l'origine sociale, les différences se réduisent, mais je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les différences se réduisent quand on prend en compte l'origine sociale, mais elles se réduisent moins en France que dans les autres pays. Pour conclure, je crois qu'effectivement ici, le redoublement, c'est un symptôme. Moi, je le prends comme un symptôme de nos difficultés à traiter justement, de nos limites, à traiter les difficultés scolaires, à traiter les facteurs à l'origine des difficultés scolaires. Et c'est plus généralement à ces questions-là qu'il faut s'adresser, à mon avis, qu'au redoublement proprement dit. Merci.